Bienvenue à la série de balado « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Juliane Pelletier, et je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons avec Danny Wade de myélome multiple. Danny est une personne grandement impliquée auprès de diverses organisations depuis qu'il a reçu un diagnostic de cancer du sang. Merci Danny de vous joindre à nous aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de vous, de votre expérience avec le myélome multiple?
Tout d'abord, merci de l'invitation. C'est vraiment gentil d'avoir pensé là, aux gens qui ont le myélome multiple, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on entend rarement parler. Donc, oui, j'ai reçu effectivement le terrible diagnostic de myélome multiple. Terrible parce que c'est l'inconnu total. J'ai reçu le diagnostic il y a présentement 4 ans déjà, à l'âge de 42 ans, ce qui est très jeune concernant ce type de cancer-là. Habituellement, ce qu'on apprend, ce qu'on nous dit, c'est que les gens ont 65 et 70 ans et plus à forte majorité. Donc, 42 ans, c'est une surprise, c'est un choc. Et puis, voilà, depuis ce temps-là, j'ai passé à travers de nombreuses épreuves, mais toujours vivant puis fier de l'être.
Puis, quelles ont été les étapes que vous avez suivies lors de votre diagnostic?
Mais en fait, le diagnostic est arrivé. Je suis rentré d'urgence à l'hôpital et en fait, ça faisait plusieurs mois que j'allais pas bien. Je suis vraiment pas bien, de la fatigue extrême. J'arrivais pas à finir mes journées au travail. Beaucoup de problèmes là, au niveau des reins. J'avais mal aux reins tout le temps, mais je pensais que c'était des peut-être là, un problème de vessie, une infection. J'étais toujours malade aussi au niveau là, des enfants ramenaient des rhumes à la maison. Moi, c'était un rhume, une pneumonie, une bronchite. Ça a duré peut-être là, 5-6 mois. Et puis finalement, ça m'a conduit à l'hôpital là, d'urgence. Et après 2 journées, là, avoir passé des nuits là, à l'hôpital, là, à l'observation, à faire des tests, des prises de sang, c'est là que les médecins m'ont annoncé là, la fameuse nouvelle que j'avais un cancer. Et qu'il s'appelait le myélome multiple. Et ça a été vraiment un choc, là, comme je le disais, comme tout le monde, parce que personne n'entend ce nom-là, myélome multiple. Ça circule pas dans les rues, c'est pas diffusé. On entend toujours parler de cancer de quelque chose, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de, mais un cancer qui a son propre nom, c'est tellement mystérieux. Puis c'est là que tu réalises que s'il y a son nom, il y a peut-être quelque chose de plus grave. Et oui, ça fait extrêmement peur. Donc, de là, quand j'ai reçu le diagnostic après 2 jours, on m'a dit qu'on allait commencer là, la chimio de façon intensive et agressive. Donc, encore là, ça met plus de pression, plus de stress, parce que les mots employés donnent plus de gravité à ce qu'on vit, à ce qu'on a, à la maladie qui nous agresse, qui veut nous tuer finalement. Et puis de là, on a commencé là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où est-ce que j'étais, le protocole qu'on nomme CyBody, et pour 16 semaines de ce traitement-là, qui est la cyclophosphamide, le portezomib, puis le décadron. Donc, de là a débuté là, mon aventure avec le myélome multiple, et puis tout ce qui allait suivre.
Est-ce que durant toutes ces étapes, il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir?
Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? En fait, au départ, j'aurais voulu tout savoir, tout connaître pour être prêt. Quand les médecins m'ont annoncé le diagnostic, puis tout allait vite là, dans ma tête. Là, puis c'était comme écho, comme quand on est en dessous de l'eau, c'était glauque, c'était pas clair. Le cerveau gèle, hein, puis on entend juste des parties de phrases, puis on part là, dans pas dans un délire, là, mais dans notre tête à trouver des solutions, puis à comprendre ce qui se passe. Puis on s'accroche à certains mots, dont les statistiques qui nous annoncent que la moyenne de survie est de 5 à 7 ans, puis que c'est une maladie incurable. Puis là, on se dit, ben qu'est-ce que tu veux dire par incurable? Là? Ça se traite pas, ça se soigne pas, je suis vraiment condamné. Et puis, c'est après le choc passé, là, on veut avoir des réponses. Moi, j'ai demandé à mon docteur, OK, c'est quoi le plan? Puis c'est quoi le plan ABC? C'est quoi les autres options? Puis, il a été très honnête avec moi, il m'a dit, il n'y a pas d'option, On espère que ce qu'on te propose va fonctionner du premier coup. On verra par la suite, mais les options sont minces. Puis, ça dépend de chaque personne, mais moi, je suis quelqu'un de très combatif. Puis, je me suis dit, bon, OK, on va y aller à 100%, on va tout donner. Puis, on verra étape par étape, mais on cherche quand même des réponses. On veut avoir des plans d'urgence ou des sorties de secours ou une bouée de sauvetage, peu importe. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est que c'est tellement difficile aussi, c'est éprouvant physiquement, psychologiquement, puis il n'y a pas juste la maladie, il y a tout ce qui gravite alentour, la famille, les amis, le travail, les assurances, c'est épouvantable, là, tout ce qui arrive dans une seule fraction de seconde, la réalité nous rattrape. Fait qu'on essaie de focusser et puis d'y aller, mais à travers ça, on fait ce qu'on a à faire, puis c'est. Je suis content donc aussi qu'il n'y ait pas eu trop d'informations parce que peut-être que ça m'aurait fait plus peur. J'aurais pas pu mettre toute mon énergie à être focusé au moment présent à chaque chose que je devais faire, un peu comme un pilote qui doit faire un atterrissage d'urgence ou un astronaute qui a une mission précise. On peut pas. En tout cas, moi, je pense que c'était peut-être bien qu'il n'y ait pas trop de réponses ou que j'ai pas cherché trop de solutions au départ parce que ça aurait pu être catastrophique. J'aurais pu perdre le fil à travers ça.
Puis, vous nous avez parlé un peu des traitements que vous avez reçus. Est-ce que vous avez ressenti des effets secondaires? Puis, si oui, comment vous les avez gérés?
Au début, avec le protocole Cyber-D, bon, tu reçois ton injection de Velcade, tu prends tes 10 pilules de Décadron parce que j'avais 10 fois 4 mg, donc 40 mg par jour pendant 4 jours et 3 jours à zéro. Puis plus la cyclophosphamide pendant 16 semaines. En fait, c'était ça le protocole. Donc, première semaine, tu dis, bah, il n'y a rien là. Deuxième, troisième, quatrième. Tu dis, ouais, c'est pas si tough que ça. Vraiment, je suis vraiment fait fort. Parce que, tu sais, on a toute l'image de d'autres personnes qui ont eu le cancer dans notre entourage, dans les films qu'on voit, puis, tu sais, la perte de cheveux, puis ça vomit, puis tout ça. Tu dis, ouais, c'est pas si tough que ça. C'est un protocole qui était différent là, de ce qu'on peut s'imaginer. Puis, mais à partir de la cinquième, sixième semaine, c'est là que j'ai ressenti la fatigue s'est installée, là, vraiment un épuisement, là, une journée de déménagement, là, tu sais, un 1er juillet à 30 degrés, là, à déménager au troisième étage, ça ressemblait à ça, puis c'était cumulatif, là, c'était une journée, deuxième, troisième, puis ça, la fatigue t'a accumulée, là, tu dors, puis tu dors, t'as plus envie de manger. C'est là que tu réalises que, wow, OK, je suis embarqué dans quelque chose, là, une grosse montagne russe, puis j'en ai pas le contrôle. Puis les semaines avancent, puis c'est comme toujours le jour de la marmotte aussi, hein. Tu vas à l'hôpital, tu as un suivi, tu as tes injections, les prises de sang, puis tu recommences, puis tu dors, tu es semi-conscient, tu essaies d'atteler à la toilette, puis la fatigue s'installe, puis ça reste, continue, ça continue, ça continue, puis ça progresse toujours. Tu sens ta chute, tu te sens décliner, puis les médecins, puis les infirmières sont là pour te rassurer, mais il y a une espèce de perte de contrôle, puis de perte de la réalité aussi, là. Tu fais ce que tu as à faire, puis tu dis, je vais me rendre au bout, je vais me rendre au bout, puis je vais continuer. Ils me disent de continuer, je vais le faire jusqu'au bout. C'est eux les professionnels, j'avais extrêmement confiance en mon équipe et aux médecins. Puis je dis, on y va, on y va. On est un guerrier, puis on va. On y va pour la victoire totale, puis il faut aller jusqu'au bout. Puis rendu aux 16 semaines, on a les résultats, puis c'est là qu'on apprend que finalement, oui, j'ai été chanceux, j'ai bien réagi au protocole, c'était l'objectif, heureusement ça a fonctionné. Mes protéines ont vraiment chuté, j'étais à 10 600, puis au bout de 16 semaines, il était pratiquement indétectable à 0, 0,00 quelque chose. Donc, c'était très encourageant. Donc, j'attendais que la suite. J'ignorais c'était quoi la suite. Je sais pas. J'étais tellement épuisé puis dans le processus que je demandais pas trop d'informations. Puis, c'était quoi la suite? J'en avais aucune idée. J'allais l'apprendre au fur et à mesure que les médecins allaient me donner l'information. Puis, après 16 semaines, c'est là que j'étais rendu à connaître la suite.
Puis, quand vous parlez de votre fatigue, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive encore de ressentir? Mais est-ce que vous avez développé au quotidien, des astuces pour mieux fonctionner peut-être avec, cet effet secondaire-là?
La fatigue, après 4 ans, est toujours là. Puis, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi, en rencontrant plusieurs patients, en parlant à plusieurs médecins, en assistant à des colloques, à des réunions de toutes sortes, que c'est variable d'une personne à l'autre. On n'a pas tous le même physique, le même âge, la même réalité de vie. Puis, mais après 4 ans, la fatigue est toujours là, beaucoup moins qu'avant. On se fait souvent dire par les médecins, tu vas voir, ça va revenir, inquiète-toi pas, tu vas retrouver la personne que tu étais d'avant. Mais moi, ce que je réalise, c'est qu'on revient pas tout à 100% dans tout. Il y a des choses, autant que ce soit la mémoire, la concentration, la capacité physique, l'endurance, c'est variable. C'est pas revenu à 100% dans tout, puis je pense que ça reviendra jamais non plus dans tout. Puis à travers tout ça, ce processus-là, on apprend à se redécouvrir. On n'est pas. Est-ce qu'on est une autre personne? On a évolué, on a changé, on s'est transformé, c'est sûr. Il y a beaucoup de trucs là qui nous rentrent dedans, qui nous font prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut être. Fait qu'on développe des trucs pour essayer de le pallier à ce qui nous manque. Des fois, on essaie de se mentir à nous-mêmes aussi qu'on est capable, mais le corps, lui, te le rappelle, là, quand il est fatigué, là, il te sac à terre complètement, puis c'est comme, va te coucher, mon grand, là, t'es plus capable, j'en ai besoin. Fait qu'il te ramène à l'ordre ton corps. Fait que quand tu as besoin de faire ton petit somme d'après-midi, ou que ce soit 1 heure ou pendant 6 heures de temps, peu importe, à tous les jours, à tous les 2 jours, à toutes les semaines, maner la batterie est à terre, ton corps te le rappelle, puis. Même si on veut pas, il nous rappelle à l'ordre. C'est un travail d'humilité sur soi-même. Hein. On vit dans une société de compétition, puis d'être toujours performant, d'être le numéro un dans tout, d'être bon dans tout, de savoir tout, de comprendre tout. La génération Instagram et compagnie qui va suivre, là, je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être ça va être libérateur aussi d'eux pour s'exprimer, de le témoigner, comme moi-même j'ai fait sur Facebook. Mais c'est de s'adapter. De se renouveler, de se retrouver, d'être honnête avec soi-même et avec les autres aussi. Quand ça va pas bien, c'est d'être capable de le dire, de l'exprimer. C'est pas toujours là de, on veut pas toujours dire aidez-moi, on a besoin, on veut faire pitié, mais se dire regarde, j'ai besoin d'une pause, je vais faire mon petit dodo, que ce soit avec ma blonde ou mes enfants qui étaient très jeunes aussi, qui sont toujours d'ailleurs. Puis c'est une évolution famille aussi de compréhension. Puis d'être honnête, de dire la vérité, de pas avoir peur de dire ce qu'on vit, ce que c'est avec les vrais mots. Puis c'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est d'être vrai à travers tout ça, puis pas avoir honte de rien, puis de s'enlever ce fardeau-là, d'être un performer, puis d'être toujours numéro un, puis d'être sur son 36 tout le temps. Quand tu es à quatre pattes, tu es à quatre pattes, puis le lendemain ou 1 heure après, tout va bien aussi, tu récupères. Donc c'est d'être honnête à travers ça. C'est une des clés du succès.
Puis tu me parles de ta famille, bon, ta conjointe, tes enfants. Est-ce que durant toute cette période-là, tu as reçu du soutien particulier ou peut-être même de l'extérieur qui t'a aidé, peut-être un soutien qui t'a plus marqué, dont tu te rappelles et que tu veux partager avec nous?
Bien, en fait, j'ai été extrêmement privilégié. Dès le jour 1, où est-ce que j'ai reçu, même avant, là, tu sais, j'allais pas bien, puis c'est ma conjointe qui m'a amené à l'hôpital, parce que j'étais en attente, moi, d'aller rencontrer là, un hématologue 4 jours après ma rentrée à l'hôpital. J'étais en arrêt de travail. Et puis, mon médecin de famille m'avait mis en arrêt de travail pendant 2 semaines. Pour voir ces fameux hématologues-là à Maisonneuve-Rosemont, puis c'est mes reins qui ont lâché 4 jours avant ce rendez-vous-là. Puis c'est ma conjointe qui m'a amené d'urgence à l'hôpital, qui a passé là, à chaque jour avec moi au chevet en attente du diagnostic, puis après. Mais tout le monde de ma famille, là, quand j'ai reçu le diagnostic, puis j'ai dû l'exprimer, dire bon, je dois l'annoncer à mes proches, à mon père, à mes enfants, à mes amis, à mes collègues de travail, c'est-à-dire, bon, OK, je suis attaqué par mon propre corps, par mes cellules qui se rebellent contre moi. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis, ça prend un courage pour annoncer ça parce que tu dis, je fais face à, je dois annoncer ma mort, je dois annoncer que ça se peut que je sois plus là, que je décède plus vite que prévu. Le cancer, c'est un mot qui fait terriblement peur parce que qui qu'on connaît pas qui a eu un cancer du sein, un cancer du côlon, de la prostate ou peu importe. Il n'y a pas un cancer qui est plus facile l'un que l'autre. Tout ça fait peur. Il y en a qui se traitent mieux que d'autres, mais le parcours est pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans le cancer. Puis de l'annoncer, c'est émouvant, c'est éprouvant. C'est dire qu'on va amener de la peur à quelqu'un, c'est dire à son père que son fils unique fait face à la mort. C'est dire à ses trois petits-enfants que oui, papa peut mourir. De l'exprimer dans les mots qu'il faut pour à chaque personne, selon leur capacité de compréhension. Ma petite fille de 6 ans comprendrait pas comme mon garçon de 8 ou ma fille de 11 ou peu importe la relation qu'on a, faut trouver les mots justes pour pas leur mentir, pour pas créer une blessure pire que c'est, mais sans cacher la vérité non plus. C'est une gymnastique. Puis par rapport à soi-même, parce qu'à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, c'est face à soi-même, on est devant le précipice, puis on espère de trouver un filet, puis des fois, il faut réconforter les personnes de notre entourage. C'est ça qui est étrange aussi. Mais avec le cheminement, tout de suite, ça a été instantané. Là, les gens m'ont tellement donné d'amour. Tout le monde a été là pour me tendre la main, là, peu importe la façon, que ce soit en une présence physique, avec des textos à chaque jour, que quand je revenais de mes traitements mensuels, hebdomadaires, pardon, je revenais, le gazon était coupé, puis je me disais, mais qui fait ça? C'était un de mes voisins qui habite à 4 ou 5 maisons de chez nous. Chaque vendredi, mon gazon était coupé, ça enlève un stress. L'heure ou l'heure et demie que la comme ma blonde ou quelqu'un n'a pas eu à faire le gazon, bien, cette personne-là pouvait me donner des soins supplémentaires. Que ce soit, t'arrives puis il y a quelque chose de déposé sur ton balcon, c'est une bâche de spaghettis ou un bouillon de soupe. Il y a plein de petits gestes qui ont été faits qui viennent vraiment t'envelopper d'amour. Puis ça, c'est aussi fort qu'un traitement de chimiothérapie, là. Tout cet amour-là te donne un courage, puis une raison de te battre, une raison de vivre. Mais il y a aussi un temps où est-ce que tu te sens coupable, hein, de toute cette générosité-là humaine, la solidarité qui s'ensuit. Tu te sens coupable parce que tu dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça alors que d'autres ont rien? Je mérite toute cette attention-là. Tu sais, c'est le fun de donner des cadeaux, mais recevoir, on n'est pas habitué souvent. Puis il y a un malaise, puis quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, Dani, t'es une des personnes qui a toujours été là pour tout le monde aussi. À chaque fois qu'il y avait une activité ou quelque chose, tu demandais rien, puis tu le faisais, puis t'étais heureux. Mais oui, ça fait du bien de rendre les gens heureux. Mais dis maintenant, c'est à toi d'accepter que ce qu'on fait, ça nous rend heureux. Puis ça m'a libéré d'un poids de culpabilité. Puis c'est ça le cycle de la vie, l'échange, l'interaction, cette fluidité-là, la fluidité qui passe entre les êtres humains, puis c'est ce courant d'amour-là qui passe, c'est qu'il n'y a pas je donne, puis je prends, c'est que tout le monde reçoit. Fait que ça, c'est merveilleux, puis c'est quelque chose que cette maladie-là, ou peu importe la maladie ou les accidents ou les épreuves qui nous arrivent, quand il y a une catastrophe grave, sévère, qui nous remet en question. C'est là que ça se transforme en cadeau, puis qu'on doit puiser là-dedans pour trouver ce qu'il y a de bon, puis le faire accroître davantage, autant pour soi que notre entourage. Puis c'est comme c'est une pluie qui arrose tout le monde, là. C'est quelque chose qui vient tout régénérer, puis qui enlève toute la peur, puis la souffrance qu'on a passée au travers. C'est un grand retour que la vie nous redonne après.
Donc, c'est intéressant, tu nous parles du fait que tu as dû apprendre à recevoir à ton tour. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que d'avoir reçu ce diagnostic de cancer du sang-là a changé quelque chose dans ta vie?
C'est sûr que de recevoir un diagnostic de cancer puis de myélome vient changer quelque chose dans une vie, là. On vit notre vie de façon un peu robotique ou programmée, tu sais, c'est métro, boulot, dodo. Puis on se rend pas compte, là, on est programmé d'une certaine façon. Tu sais, on va à l'école primaire, secondaire, on fait cégep, l'université, on fait notre vie. On se dit, on va rencontrer la bonne personne, on va avoir une maison, on veut voyager. Les enfants, on pense à la retraite, on achète une maison, deux, trois, un bloc. Tu sais, on vit vraiment avec un plan, mais un plan programmé d'une société. Puis là, on s'oublie, on oublie des fois nos rêves ou ceux qu'on n'a pas pu réaliser. Puis de faire face à sa mort, le fameux bucket list, là, il revient vite, là. Et on est dans une urgence de vivre, puis on se dit, si je réussis à passer au travers, maudit que je vais arrêter de perdre mon temps, là. Tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est faux, les priorités reviennent. Puis on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai pas fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Il y en a qui vont dire, moi, je veux faire le tour du monde, ce que j'ai pas fait. Je veux sauter en bungee, en parachute. Je veux aller faire de la plongée. Je veux écrire un livre. Je veux faire un film. Peu importe. Fait que oui, ça vient de chercher dans ta réalité d'humain que la vie est limitée. Il y a une date d'expiration qu'on espère toujours être à 80, 90 ans, puis dépasser 100 ans maintenant. Mais le fait est que la vie, c'est la vie. Puis il n'y a pas de garantie. Fait que cette urgence de vie-là vient te chercher, puis tu as envie de gâter ton monde aussi. Moi, je me rappelle, là, dès que j'étais capable d'être un peu plus fonctionnel physiquement, ben là, j'ai voulu gâter mes proches. J'ai voulu réaliser le rêve que eux avaient aussi jamais pu faire. Tu sais, j'ai offert à ma blonde une journée de char de course là, pour qu'elle puisse vivre ça. Mon meilleur ami qui voulait être pilote d'avion, j'ai permis de piloter un avion un après-midi de temps. Il y a plein d'activités comme ça que tu veux te retrouver avec tes enfants. Dire si jamais c'était mon dernier Noël, c'était mon dernier anniversaire, que c'était la dernière fois que. Fait qu'il y a plein de remises en question qui se font. Puis des fois, ça devient un peu déraisonné. On s'emballe, puis on achète, on achète, on achète, là. Puis quand on est sur le décadron, watch out, là, ceux qui comprennent c'est quoi, vous allez rire, je suis certain, mais on a des méchants high, là, incontrôlables. Puis heureusement que notre entourage est là, oui, et les équipes professionnelles, les infirmières, les médecins, mais ceux qui sont proches de nous, qui nous aiment, c'est des fois, j'ai l'impression d'être dans le star system, là, puis d'être une vedette, là, qui touchait plus à terre, là. Heureusement que ma famille, puis ceux qui m'aiment, était là pour me sécuriser puis me protéger de ma propre folie là, de cette urgence de vivre-là. Donc, ça fait un temps, puis c'est peut-être un processus sain aussi. Puis je dis ça, là, j'ai aucun regret, là, au contraire, je suis très content de tout ce que j'ai pu offrir, puis faire, puis recevoir. Mais il reste que c'est très confrontant de faire face à sa propre mort, puis je pense qu'il n'y a personne qui réagit pareil. Puis l'entourage, hein, c'est un des grands secrets. Il y a pas, c'est 50% de la job, je suis convaincu. 50% là, c'est l'entourage qui fait que tu vas passer à travers, tu vas vouloir rester en vie, puis que tu vas rester aussi sain d'esprit. Donc c'est des grands cercles, hein. Il y a plein de choses, comme on parlait, que la fameuse publicité qu'on a toutes vue à la télé, là, qu'on voit les gens, il n'y a pas un son, ils sont devant le médecin, puis ils reculent tous vers l'arrière. Fait que c'est vraiment une onde de choc, un diagnostic de cancer. Cette onde-là, elle se propage. On est l'épicentre, on est le patient, on est la source du problème, de la maladie, mais cette onde de choc-là se propage assez loin, souvent. Mais ça fait aussi que ça tisse des liens tellement serrés. Puis quand on se regarde dans les yeux puis on se dit oh, je t'aime, c'est tellement vrai.
Puis pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui reçoit un diagnostic de myélome multiple afin de l'encourager?
Ben que oui, c'est possible. Ça fait peur. Les statistiques font peur. Le personnel médical se doit de les communiquer. Moi, c'était 5 à 7 ans. Juste pas longtemps avant moi, c'était 5 ans et moins. Puis maintenant, on peut parler de peut-être 7 à 10 ans et plus parce que la recherche avance. Les techniques sont plus poussées, c'est plus fiable aussi. On a plus d'expertise pour contrôler toutes les choses impossibles qui peuvent arriver et qui arrivent. Il y a plein de nouvelles molécules qui sortent là, d'année en année, de mois en mois, c'est incroyable. Tous les nouveaux médicaments qui existent, puis qui peuvent être en combinaison, en duo, en trio, puis en quad, qui permettent là, des résultats incroyables, mais en bout de ligne, ça reste des statistiques. C'est nous. Les médecins nous en parlent, on se dit je m'en fous de tes statistiques, là, c'est moi. Moi, je suis pas une statistique, j'existe. Puis on a besoin de se faire parler comme être humain, pas comme un numéro, pas comme un cas. Et il faut vraiment développer une relation de confiance avec nos médecins. Ils sont vraiment incroyables. Avec si peu de moyens, ils arrivent à faire des vrais miracles, là. Des miracles d'administration, des miracles technologiques. Mais à travers tout ça, on fait face à un être humain que lui aussi fait son possible pour nous sauver la vie. Il n'y a pas de boule de cristal, personne n'en a une. Mais de faire confiance à un médecin, ça vient aussi apporter énormément plus de chance parce que il y a des petits détails qui peuvent échapper. Fait qu'il faut communiquer comme faut avec notre médecin, pas avoir peur de dire ce qu'on vit avec les vrais mots, puis d'être direct. Et puis quand on a ce lien-là, c'est tellement rassurant parce que oui, c'est possible. Ça fait 4 ans que j'ai eu diagnostic, j'avais pas grand chance. J'avais des chromosomes déficients, un 17P puis un 1Q+, qui venaient là vraiment là scraper mes chances là de loin. C'était, je pense, c'était 30 à 40% de moins de chances de survie. Donc l'autogreffe m'a été proposée. Puis je le cacherai pas, là, c'est pas une expérience qui est facile. C'est pas un petit voyage au Mexique, là, tout inclus, là. C'est pas la joie. Mais j'ai réussi à passer au travers. Mais quand on m'a annoncé que ces fameux chromosomes-là venaient réduire mes chances de survie, j'étais éligible à une allogreffe, là. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça, une allogreffe? Fait que, bon, on t'explique tout ce que c'est, les processus, puis qu'on doit trouver un donneur compatible avec la même génétique que toi. Mais là, j'ai le gun sur la tempe, là. C'est la roulette russe. Fait que tu dis, j'ai pas le choix, là. Je vais y aller. Je vais miser le tout pour le tout. Et bon, on a réussi à me trouver un donneur pour l'allogreffe. J'ai complété ça. Donc, 4 ans plus tard, après avoir passé, bon, l'encaisser le choc du diagnostic, puis de passer à travers des étapes qu'on sait même pas qu'est-ce qui va arriver après, puis après, puis après, puis de contrôler toutes les up and down de cette grosse montagne russe-là où c'est un marathon sans fin. Parce qu'on a l'impression qu'on arrive à une ligne d'arrivée, mais il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est une course sans fin, mais la vie est une course sans fin. Fait qu'un moment donné, c'est que j'ai réussi à comprendre que peu importe, bon, qu'on se casse un bras, qu'on se fasse une coupure au front, c'est des choses qui arrivent dans une vie. Un cancer, c'est quelque chose qui arrive dans une vie. Oui, c'est plus grave qu'un ongle cassé, mais ça fait juste partie de la vie. C'est pas plus grave que ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait de bien ou de mal, puis on fonce à travers ça. Fait que maintenant, je le vois vraiment comme un cadeau de la vie, ça m'a rendu meilleur, en tout cas, j'espère. Puis c'est ce que je dis à tout le monde, j'espère que Dani est devenu une meilleure personne qu'il était encore. Puis de pouvoir offrir, de témoigner de ce que j'ai passé à travers, de pouvoir parler à d'autres patients qui me téléphonent ou à qui je suis en contact avec le groupe de soutien, de pouvoir les rassurer parce que souvent, comme je leur dis, il y a juste un autre soldat qui est allé à la guerre qui peut en comprendre un autre. Puis souvent, c'est dans les silences qu'on se comprend le plus, juste dans les regards. Puis on est capable de comprendre justement les silences de l'autre personne ou la panique ou la peur ou les pleurs d'une personne puis d'avoir rien d'autre à dire, de juste l'écouter ou de le prendre dans nos bras quand c'est possible. Fait que c'est une série d'épreuves physiques, mentales, psychologiques, financières, tout y passe. Mais en bout de ligne, ce qu'un patient cherche, au-delà des réponses, c'est d'être assuré, puis dire, ben cette personne-là aussi a passé au travers, c'est donc possible. C'est pas tout le monde qui va le faire. Malheureusement, il y en a qui décèdent rapidement ou à courte échéance ou à longue échéance. Mais plusieurs s'en sortent de plus en plus grâce à la recherche. Et Dieu merci, à Montréal, on a des médecins géniaux, des chercheurs incroyables, des laboratoires, des pharmaceutiques qui sont reliés à travers tout ça. Il y a des campagnes de financement qui sont ultra essentielles. Et aujourd'hui, je réalise que toutes les causes sont bonnes. On, tu sais, on donne toute une pièce ou deux quand on est à l'épicerie et je ramasse de l'argent pour X, Y, Z. Puis tu dis, bon, OK, tu sais, tu fais ton bon citoyen, tu donnes ta pièce, ton 5 pièces, puis advienne que pourra. Mais quand c'est toi, là, tu réalises que chaque dollar compte, chaque pièce que tu donnes à quelque part vient changer la vie de quelqu'un. Et de milliers, de millions de personnes, du patient jusqu'au chercheur, tout est interrelié. Donc, perdez pas courage parce que plus que le temps avance, plus que la recherche avance, donc chaque jour, il y a des nouveaux patients, des nouveaux cas. Je crois qu'au Canada, c'est 9 par jour. Ben, à chaque jour qui avance, c'est des soins puis des solutions de plus. L'espérance de vie avance. Le myélome multiple se fait connaître davantage, donc ça va devenir moins peurant. Il y a plus de soutien. Il y a, à travers tout le pays, mais à travers la planète entière, il y a des groupes de recherche partout. Donc, on a des parachutes. Il y a des parachutes qui se fabriquent à chaque jour, qui ralentissent notre chute. Et un jour, ben, on n'aura plus besoin de parachute parce que on va être capable de voler. C'est carrément ça. Fait que l'espoir est là. Perdez jamais espoir en vous. Ayez toujours confiance. Puis si vous avez besoin d'aide, cherchez-la. Il y a des groupes de soutien partout pour le myélome, peu importe le type de cancer aussi. Donc, c'est ça le mot de la fin que je dirais. L'espoir est réel. Puis il y a des êtres humains comme moi qui sont capables de faire un bout de chemin avec vous pour vous accompagner dans vos moments de détresse ou de tristesse ou de panique, juste pour vous donner le petit coup de pied dans le derrière, puis la tape dans le dos, puis de vous dire que ensemble on est capable de tout.
Un gros merci, Dani, pour ton implication au quotidien, mais aussi d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager ton histoire avec nous. C'est vraiment très généreux de ta part, puis ça va sûrement en aider plusieurs qui recevront également ce diagnostic. Si vous avez des questions sur le myélome multiple ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec le service à la communauté de votre région et à visiter le www.slcanada.org pour nous joindre. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados enregistrées, veuillez nous en faire part au Québec Info à commercial.lls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez slcanada.org.